Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce mercredi matin, nous recevons Lydie Massard. Elle est députée européenne UDB, également coporte-parole Région et Peuple Solidaire. Elle est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler d'Europe, nous allons aussi parler des peuples européens. Et j'avais envie de commencer, Lydie Massard, par votre parcours. Vous êtes donc députée européenne, vous avez été élue juste après le départ de Yannick Jadot, qui lui-même a été élu sénateur. Vous avez été plongée dans le bain tout de suite, si j'ose dire.
Oui, c'est sûr. Il n'y a pas eu de temps d'adaptation comme pour les députés qui commencent en début de mandat. Il a fallu tout de suite se mettre au travail. Ceci étant dit, après des élections sénatoriales, ça, comme le résultat était quand même un peu prévisible, j'ai pu me préparer quelques mois à l'avance.
Voilà, vous aviez un peu anticipé cette arrivée au Parlement européen. Vous venez du terrain, comme l'on dit. Est-ce qu'on peut un peu retracer en quelques mots votre parcours ?
Oui, alors c'est souvent ce qu'on dit de moi, c'est que j'ai un parcours un petit peu atypique. Effectivement, il y a encore 2 mois, je travaillais dans la cuisine d'un lycée en Centre-Bretagne, à Pontivy. Je suis donc cuisinière. Mais je n'arrive pas dans le grand bain politique comme ça, par un grand plongeon. Ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je fais de la politique. J'ai été pendant 5 ans porte-parole de l'Union démocratique bretonne, de l'UDB, et ça fait maintenant 2 ans que je suis co-porte-parole de Région et Peuple Solidaire. Donc j'ai quand même un solide bagage dans les partis politiques auxquels j'appartiens, qui m'ont forgé et qui m'ont aussi appris à faire de la politique au sens un peu plus classique. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas non plus que la politique, ça n'est pas que des grandes théories, c'est aussi et d'abord ce que vivent les citoyens et les citoyennes tous les jours sur leur territoire, dans leur commune. Et moi, c'est ça que je veux défendre au Parlement européen, c'est améliorer le quotidien des citoyennes et des citoyens.
C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que l'Union européenne est très loin. On en entend beaucoup parler, elle est beaucoup critiquée. Voilà, on dit, voilà, c'est encore de la faute à l'Europe. Mais on a l'impression qu'elle est très loin des citoyens. Dans un entretien que vous avez accordé à nos confrères du peuple breton, vous dites que l'Union européenne ne dispose pas d'une représentation territoriale adéquate. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, que l'UE aille plus sur le terrain, soit plus représentée sur le terrain, soit plus proche et donc mieux comprise finalement des citoyens ?
En fait, l'Union européenne, ça, les gens ont le sentiment que c'est quelque chose de très loin. Alors c'est vrai que géographiquement déjà c'est éloigné, Strasbourg ou Bruxelles. Mais ils ont aussi l'impression que c'est loin de leurs préoccupations quotidiennes parce que ça paraît être quelque chose de très technocratique. Et finalement, moi je me rends compte aujourd'hui dans mon mandat que c'est pas vrai du tout. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que les députés européens sont peu sur le terrain, puisque moi je suis pas une élue bretonne, par exemple, je suis une élue au niveau hexagonal. Mmh. Donc ça donne cette impression que les députés en fait sont loin de leur territoire.
On oublie un peu le véritable territoire d'où est issu le député ou la députée.
Exactement, parce que ce sont des listes nationales. Mais pourtant, le travail de l'Union européenne sur les territoires, il est quand même considérable, et particulièrement chez nous en Centre-Bretagne, puisque toutes les politiques de cohésion, type Leader, FEADER, etc., ce sont des fonds européens qui financent nombre de projets sur le territoire. Moi, dans mon lycée, par exemple, j'ai un petit exemple. Il y a une classe qui s'appelle une classe de lutte contre les ruptures scolaires. Eh bien, c'est une classe qui est financée par l'Union européenne. Et ça, je pense que très peu de personnes connaissent tous ces projets qui impactent le quotidien des Bretonnes et des Bretons et qui sont financés par l'Europe. Et je pense que si les députés européens pouvaient être plus près de leur territoire, ce serait beaucoup plus facile d'avoir une connexion avec l'Union européenne.
Alors les Bretons sont assez pro-européens dans l'ensemble, on le voit, alors même si les élections européennes, on en parlera tout à l'heure des futures élections européennes, parce qu'elles vont arriver vite hein, finalement. Les Bretons sont quand même assez européistes, je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Oui, il y a un fort sentiment européen en Bretagne, plus qu'ailleurs en France. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai participé à un webinaire du réseau rural et vraiment, toutes les études montrent que les Bretonnes et les Bretons sont vraiment attachés à l'Europe, même si depuis 2 ou 3 ans, il y a quand même, on sent quand même une petite érosion de ce sentiment européen. Malgré tout, il reste plus fort qu'ailleurs. Parce que aussi, la Bretagne a particulièrement bénéficié des fonds européens. La PAC, pendant longtemps, qui est quand même le principal, qui est quand même la principale source financière pour la France. La PAC a pendant longtemps profité à la Bretagne et a permis un meilleur niveau de vie pour les paysannes et les paysans en Bretagne. Tous les plans leaders, qui sont les plans de développement rural, ont aussi beaucoup profité à la Bretagne. Donc il y a effectivement cet attachement qui est sans doute un petit peu plus fort qu'ailleurs pour l'Europe en Bretagne.
Alors vous avez parlé de la PAC, je rebondis, comme l'on dit, sur la PAC. Elle est renégociée, elle est rediscutée en ce moment même, parfois remise en cause même. On parle du modèle agricole breton. Alors il y a différentes appréciations pour ce modèle agricole breton, le modèle traditionnel, l'agriculture intensive, le modèle agro-économique, on pourrait le dire comme ça. Et puis l'autre modèle, celui qui depuis quelques années, j'allais presque dire trace son sillon, si vous me permettez cette image, qui est une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Alors on va parler jusqu'à bio, mais en tout cas une agriculture en pleine mutation. Est-ce que ça fait partie aussi des préoccupations de la députée européenne que vous êtes? Et plus largement, est-ce que on peut en parler à Bruxelles? Est-ce que l'on peut, ou à Strasbourg, est-ce que l'on peut dire, voilà, il y a un modèle en pleine mutation, il faut l'accompagner?
Alors oui, ça fait partie de mes préoccupations. Je dirais même que c'est au cœur de mes préoccupations. À double titre, je l'ai dit tout à l'heure, je suis cuisinière, donc forcément les questions agricoles et d'alimentation m'intéressent. Mais aussi parce que je viens du centre-Bretagne, je suis née à Loudéac et j'y ai grandi et je vis aujourd'hui à Pontivy. Donc vraiment, les questions d'agriculture et surtout les questions d'alimentation m'intéressent. Mmh. Et en tant que régionaliste aussi, ces questions m'intéressent, puisque l'alimentation, ça fait quand même appel à quelque chose qui est d'ordre de l'intime, qui est d'ordre du culturel et qui est très lié à notre territoire. Et moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est de revenir à une alimentation plus locale et plus qualitative. Et pour ça, effectivement, il faut avoir une PAC qui soit performante. Qu'est-ce que c'est qu'une PAC performante ? Bon, dans la PAC, il y a 2 piliers. Il y a un premier pilier qui est les aides directes aux agriculteurs. Donc ce premier pilier, il est aujourd'hui donné de manière, moi je trouve que c'est pas juste, parce qu'en fait, plus on a une grande ferme, plus on reçoit d'argent. Donc ça profite à qui ? Ça profite aux grandes exploitations, en particulier aux grandes exploitations céréalières, qui sont très peu pourvoyeuses d'emplois d'ailleurs, et qui ne sont pas les exploitations qu'on a aujourd'hui en Bretagne. Donc nous, on réclame que ce premier pilier de la PAC soit donné aux exploitations qui sont le plus pourvoyeuses d'emplois, c'est-à-dire à des petites exploitations qui font de la polyculture ou de la polyagriculture qui produisent en fait une alimentation locale et durable. Et puis il y a le deuxième pilier de la PAC qui est le pilier de développement en fait des territoires. Et là, ce pilier, nous, on demande à ce qu'il soit régionalisé, parce qu'aujourd'hui, c'est géré par l'État, hein, en fait. Et sauf que, en France, les régions, elles ne sont pas toutes les mêmes. On ne peut pas comparer la région Bretagne à la région PACA ou à une région viticole comme le Bordelais, par exemple. Donc nous, on aimerait que la région Bretagne puisse gérer elle-même ce second pilier de la PAC pour qu'elle puisse enfin déployer des politiques agricoles qui soient cohérentes et qui soient en accord avec ce qui se passe et ce que vivent les agriculteurs et les agricultrices sur le territoire.
Alors, une Europe régionaliste, j'ai retenu le mot. On a aussi entendu parler beaucoup, et on en a parlé avec de nombreux invités ici de la matinale, d'autonomie. Le mot a été lancé, il a été repris au vol par le président de la région, Loïc Chesnais-Girard. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas la région Bretagne? Je crois que c'était la Corse qui était quand même au départ plutôt visée par cette autonomie. Est-ce qu'il faut aboutir dans quelques années à une plus grande forme d'autonomie des régions dans l'Europe?
Bah écoutez, vous parlez une autonomiste, nous ça fait à l'Union démocratique bretonne 60 ans qu'on défend ce modèle.
Le mot faisait peur avant, autonomie.
Oui, c'est vrai que le mot autonomie faisait peur. Pourtant, c'est un mot qui est quand même très positif. On parle de l'autonomie des personnes âgées, des enfants. Mais dès qu'on parle d'autonomie institutionnelle, tout de suite, c'est un petit peu compliqué et ça fait peur.
Et pourquoi ça fait peur finalement?
Parce qu'on vit en France et qu'en France on a un système qui est extrêmement centralisé, qu'on a eu l'habitude de voir l'ensemble des politiques publiques gérées par des gouvernements très forts et un président de la République très fort. Aujourd'hui, on voit que ce système, il est à bout de souffle. On le voit, on voit que d'abord les citoyens réclament d'être plus proches de leurs élus. On le voit bien, on parle de démocratie participative, etc. Nous, ça fait 60 ans qu'on défend la démocratie participative, parce que ça fait 60 ans qu'on dit, eh bien, nous, on souhaite que les élus locaux aient plus le pouvoir et le pouvoir de décision. Et finalement, tout ça, c'est très logique, parce que ce qu'on vit sur un territoire, on ne le vit pas sur un autre territoire. Donc, il faut que les décisions soient prises à une échelle cohérente. Et nous, on pense que la meilleure échelle possible, c'est l'échelle des régions et des bassins de vie. Voilà.
Et ça permet aussi à chaque région, à chaque bassin de vie, de garder sa culture. Parce que, voilà, vous le disiez tout à l'heure, en parlant d'agriculture, justement, on ne pense pas forcément pareil dans le Bordelais qu'en Bretagne. Ça ne nous empêche pas de bien nous entendre. Hein. Je rassure les auditeurs du Bordelais qui nous écoutent, il y en a quelques-uns. Le fait que l'Union démocratique bretonne est représentée au Parlement européen, est-ce que... Pour vous, c'est une force, justement, avec les autres formations régionalistes, hein, bien sûr. Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est quelque chose aussi un peu d'inattendu?
Inattendu, je ne sais pas. Ça fait longtemps qu'on se prépare. Nous, on a toujours dit qu'on travaillait pour être élu et pour changer les choses. Donc, inattendu, pas réellement. Mais par contre, on est très, très contents parce que ça fait quand même une échelle... supplémentaire où on peut être entendu. L'UDB jusque-là a plus été présente dans les mairies et ou à la région Bretagne, mais elle n'avait jamais traversé ce plafond de verre, je dirais, qui est les instances nationales ou européennes. Donc c'est maintenant chose faite. Et puis je dirais que avoir un élu à l'Union européenne, c'est quand même très très intéressant. Parce que l'Union européenne est déjà sensibilisée à ces questions de fédéralisme, d'autonomie. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Autant quand on en discute en France avec des élus ou des députés nationaux, ils comprennent pas toujours ce qu'on veut dire même. Autant dans l'Union européenne, nous les Français, on est presque l'exception. Je parle de la Belgique, de l'Allemagne, les questions de langue régionale, ce ne sont pas des questions en fait. Tout se passe bien. Les questions de gouvernements régionaux et d'autonomie régionale, c'est pareil. La plupart des pays européens ont des représentations régionales fortes. En fait, il y a qu'en France qu'on n'a pas ce genre de représentation. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un écho qui est favorable sur les idées que nous portons.
Alors vous avez parlé des langues régionales. Alors pour la Bretagne, le breton et le gallo, pour les citer, on va faire chauvin ce matin. Ces langues régionales aujourd'hui n'ont pas été reconnues par la charte des langues régionales. Justement, la France ne l'a pas signée. Est-ce que ça fait partie de... j'allais dire de vos motivations aussi dans le fait de porter des dossiers, et celui-là en particulier?
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le début de mon engagement politique, c'était un engagement dans les associations aussi pour les langues de Bretagne, même si, à titre personnel, je ne parle pas breton.
Eh bien, je vous rassure.
Ni gallo.
Moi non plus. Je parle gallo, mais pas breton.
Mais il n'y a pas voilà. besoin de, forcément de parler breton pour le défendre et pour le défendre avec ardeur. En tout cas, au Parlement européen, clairement, ça fait partie des choses qu'on souhaite pousser. La France devra un jour ou l'autre ratifier cette fameuse charte des langues régionales et minoritaires. Et d'ailleurs, savez-vous que si aujourd'hui la France voulait postuler pour entrer dans l'Union européenne, eh bien elle ne le pourrait pas parce qu'elle n'a pas signé cette fameuse charte, ce qui est quand même incroyable. La France est se vante souvent d'être un des pays fondateurs de l'Union européenne et aujourd'hui, elle ne pourrait pas entrer dans l'Union européenne du fait de la non-ratification de cette charte. Donc j'appartiens aussi à l'Union européenne, à un intergroupe qui s'appelle l'intergroupe minorité. Et donc on travaille beaucoup sur ces questions. Et on fait un lobby et on espère qu'un jour on pourra vraiment influencer la France pour qu'elle signe cette charte et pour que le peuple breton, dans l'intégralité de ses frontières géographiques, puisse être reconnu et que les langues de Bretagne puissent aussi être reconnues.
Qu'est-ce qui fait peur dans le fait que des langues minoritaires comme le breton, comme le gallo, alors on pourrait y rajouter évidemment le corse, l'occitan, etc., il y en a beaucoup en France, qu'est-ce qui fait peur c'est que la langue française disparaisse finalement que le...
Je pense pas que ce soit une menace pour la langue française. Je pense que juste que c'est que la France s'est vraiment construite et juste après la Révolution française, la République française, voilà, s'est construite sur ce fameux mantra la France est une et indivisible. Et on a l'impression que si on autorise ou que si on rend officiel d'autres langues en France, on va mettre un coup de poignard à la République. C'est en tout cas ce que les élus nationaux qui sont contre les langues régionales ne cessent de répondre. Mais moi, je constate quand même qu'aujourd'hui, il y a un changement dans les mentalités. D'ailleurs, la loi Molac, elle a été votée il n'y a pas si longtemps. Mmh. Et que s'il n'y avait pas eu ce fameux Conseil constitutionnel qui nous avait censuré, il y avait quand même une majorité au Parlement, il faut le dire. Mmh. Donc on sent quand même que les choses bougent. Maintenant, il faudrait qu'en haut lieu, qu'au niveau des gouvernements, des ministres et du Conseil constitutionnel, les choses bougent aussi. Je suis moyennement optimiste quand je vois ce qui s'est passé pour l'inauguration à Villers-Cotterêts du fameux musée pour la langue française. Je me dis qu'on a encore du travail à faire, donc on n'est pas là pour rien, nous les régionalistes et les autonomistes.
On parle de territoire. Vous avez abordé, debout d'élèves tout à l'heure, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, les territoires. Il y a eu un redécoupage administratif de la France. La Bretagne ne s'est toujours pas réunie.
Mm-hmm. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on défend. D'ailleurs, on en a parlé puisqu'on a reçu l'association Bretagne Réunie au Parlement européen la semaine dernière. Donc Bretagne Réunie a déposé une pétition, une demande de pétition à l'Union européenne pour que le peuple breton soit reconnu dans l'intégralité de ses frontières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc moi, mon travail, avec quelques autres députés, c'est que cette pétition puisse voir le jour au Parlement européen, que la commission pétition puisse donner son accord pour que l'ensemble des citoyens de l'Union européenne puissent la signer, mais surtout puissent voir à quel problème se heurtent les minorités, et particulièrement la minorité bretonne, dans l'État français.
Alors, beaucoup de dossiers à porter. Là, il reste à peu près 7 mois avant la prochaine échéance électorale européenne. C'est en juin prochain, les élections européennes. Déjà, je vous pose la question un peu à brûle-pourpoint. Vous allez vous représenter ?
Ben, j'espère. Voilà, je le souhaite en tout cas. Maintenant, aujourd'hui, la Fédération des partis régionalistes, donc Régions et Peuples solidaires auxquels j'appartiens, n'a pas encore finalisé ses accords et n'a pas encore choisi son ou sa chef de file. Donc, bon, voilà, pour l'instant, les choses ne sont pas encore finalisées, mais effectivement, à titre personnel, je souhaite me représenter.
Alors, 7 mois, c'est court pour porter des dossiers. Je reviens un petit peu au début du propos. Est-ce qu'il y a un dossier très urgent aujourd'hui pour la Bretagne ?
Alors, moi, quand le mandat a commencé, je savais que j'avais peu de temps. Donc, j'ai axé mon mandat sur deux points. Donc, on vient d'en parler, hein, la reconnaissance des minorités, des peuples sans État et l'alimentation. Et donc là, en ce moment, je travaille sur un dossier qui me semble prioritaire et très important. C'est donc le dossier des NTG, Nouvelles Techniques Génomiques. Alors, derrière ces trois petites lettres se cache quand même quelque chose d'assez dangereux, c'est-à-dire qu'on va booster ou éteindre des gènes sur des plantes. Voilà. Donc, en fait, ce sont des OGM, mais on a préféré les nommer NTG. Enfin, moi, on dit que c'est différent parce que l'OGM, on rajoute un gène. Pour moi, là, c'est pas vraiment différent. Mais en tout cas, la Commission européenne a proposé a fait des propositions. Et ces NTG vont donc pouvoir, dans leur grande majorité, rentrer sur le marché européen sans étiquetage, sans traçabilité, sans que les agriculteurs puissent savoir, sachent qu'ils utilisent ces plantes, et sans que les consommateurs sachent qu'ils mangent de ces plantes. Donc nous, on a déposé, moi j'ai déposé quelques amendements, même beaucoup d'amendements là-dessus. Donc ça fait partie des dossiers dont vraiment je souhaite voir aboutir. Voilà, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, donc je me dis que ce genre de dossier, c'est grave qu'un consommateur demain puisse manger des OGM sans même qu'il soit au courant. Et puis aussi, je trouve que c'est grave pour le territoire local parce que, encore une fois, ça donne du pouvoir et de la prégnance sur un territoire à l'agro-industrie, alors qu'on a, nous, chez nous, des semenciers locaux qui, depuis des dizaines d'années, ont su utiliser des plantes et les adapter à nos territoires et aux particularités, aux conditions de nos territoires. Et là, on va nous imposer des plantes qui sont complètement standardisées.
Alors, il y a aussi cette question qui est revenue au devant de l'actualité, qui est arrivée de l'Europe, pour le coup, hein, je prends le terme générique, c'est l'autorisation pour 10 années encore du glyphosate. Voilà, on a entendu beaucoup de protestations, beaucoup de colère autour de cette utilisation prolongée du glyphosate. Est-ce qu'il fallait accompagner les agriculteurs vers une autre façon de faire de l'agriculture sans glyphosate, sans phytosanitaire, mais prendre le temps de le faire? Or là, on a l'impression qu'on met un petit peu un peu d'argent dans le jukebox, pour reprendre un terme un peu vieillot, et que c'est reparti pour un tour.
Ben effectivement, c'est reparti pour un tour. Et puis moi, je peux presque parier qu'à la fin de l'autorisation, dans 10 ans, on nous expliquera encore que les agriculteurs ne sont pas prêts. Et on nous expliquera encore qu'il faut de nouveau réautoriser le glyphosate. Bon, c'est pour ça que nous, on était avec l'ensemble du groupe contre cette réautorisation du glyphosate. Et par contre, moi, j'avais souhaité quand même mettre quelque chose en lumière. C'est que la région Bretagne s'est prononcée contre le glyphosate, et que ça, encore une fois, les régions n'ont pas été entendues. Et moi, là, je dénonce vraiment cette politique de l'Union européenne, qui est une politique des États, où on ne tient compte que des États et on ne tient pas compte de ce que vivent les gens sur le territoire et de ce que souhaitent les citoyens, les citoyennes du territoire. Sous l'impulsion du groupe Brezaglès, qui est donc le groupe où il y a l'UDB au Conseil régional, il y avait eu un vœu qui avait été voté pour la sortie des pesticides. Et juste avant le vote pour les glyphosates, Loïc Chesnais-Girard a écrit à la Commission européenne et à l'État français en disant que la Bretagne souhaitait être terre d'expérimentation pour une sortie des pesticides. On en a entendu parler nulle part.
Alors, on en a parlé ici. On en a parlé ici. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on dit, voilà, les agriculteurs ne peuvent pas sortir des pesticides. Il faut mettre une véritable politique en place pour les accompagner.
Il faut mettre une véritable politique en place, c'est certain. Il faut les accompagner. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui souhaitent être accompagnés sur ces questions. Mais Ils ne peuvent pas. Je vais citer l'exemple des MAEC, donc mesures agroécologiques et climatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui en Bretagne qui souhaitent contractualiser des MAEC. L'État français n'a pas prévu assez d'argent. Mmh. Et donc, des agriculteurs qui souhaitent faire des efforts, qui souhaitent aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, ne vont pas pouvoir contractualiser parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Voilà. Alors, ça fait aussi partie des arguments qui nous font dire qu'il est quand même temps de régionaliser le deuxième pilier de la PAC et que les régions puissent gérer cet argent au mieux, parce que là, c'est quand même dommage. On nous dit tous les jours qu'il faut aller vers une agriculture qui soit plus qualitative et qui soit plus locale. Et quand les agriculteurs veulent faire, on dit « bah non, on a épuisé l'enveloppe ». Moi, je suis désolée, et je ne comprends pas.
Lydie Massard, il nous reste 2 petites minutes. C'est notre réalisateur qui nous fait signe. Il est intraitable sur le temps. On voit aujourd'hui, d'un point de vue politique, une Europe très chahutée. On a eu ce qu'on a appelé, d'un terme générique, la crise migratoire. On voit aussi la montée des extrêmes en Europe. On le voit aux Pays-Bas, on l'a vu en Italie, on le voit en Slovénie également. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous interroge ?
Ça m'inquiète. Très clairement, je suis très inquiète du prochain scrutin européen. Je pense que nous, les autonomistes et les régionalistes, on a vraiment des choses à dire sur ces questions. Je crois qu'on est vraiment le barrage contre l'extrême droite, parce qu'on est ceux qui expliquent depuis des dizaines d'années que la diversité, que être soi parmi les autres, c'est la clé du vivre ensemble. Et je crois que ça, aujourd'hui, en France, on ne l'entend pas. Quelque part, l'État français a voulu expliquer qu'il faut absolument qu'on se ressemble tous pour vivre dans le même pays, et on aboutit aujourd'hui à ce qu'on voit, hein, à de plus en plus d'intolérance. Nous, on a expliqué l'inverse. On a expliqué que c'est pas parce qu'on est tous les mêmes, c'est pas parce qu'on a des spécificités qu'on peut pas vivre ensemble. Et en Bretagne, on le voit très bien. D'ailleurs, la Bretagne est un des pays qui a le plus de spécificités et pourtant qui est le plus ouvert sur le monde. Voilà. Donc moi, je pense que nous, les régionalistes et les autonomistes, on est vraiment le rempart contre l'extrême droite.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Lydie Massard, députée européenne UDB Union démocratique bretonne, co-porte-parole de Régions et Peuples solidaires, qui est venue ce matin. Et je vous en remercie, Lydie Massard, parce que la vie d'une députée européenne, c'est aussi un temps très compté. Merci infiniment d'avoir été avec
plaisir.
Nous. Merci beaucoup, belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.